L'Entrebisto, c'est avec Charlie sur Radio Languedoc.
Sur Radio Languedoc. Direction la Closeille, près de Saint-Hilaire, pour une lune de miel au rucher, en compagnie de Jacinthe et de Paul. Bonjour à vous.
Bonjour Charlie.
Bonjour.
Bonjour. Alors Jacinthe, Paul, on va faire les présentations. Quelques mots sur vos parcours respectifs.
Alors, moi Jacinthe, j'ai une formation de professeur des écoles. J'ai toujours suivi Paul dans son...
Dans son aventure.
Dans son travail, dans son aventure auprès des abeilles. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'on avance dans ce parcours. Voilà.
Moi, Paul, j'ai grandi ici.
Oui.
J'ai fait un bac technologique au lycée agricole de Charlemagne à Carcassonne. Et après, je suis parti faire un BTS en compta et gestion de système d'exploitation à Albi, dans un lycée agricole. Et voilà, c'était en 2005. Et après, en 2006, on a commencé à s'intéresser aux abeilles. Et depuis, on n'a pas arrêté.
Et alors justement, comment chacun de vous a-t-il découvert l'apiculture et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ?
En fait, en 2006, j'ai repris contact avec l'apiculteur du village qui s'appelle Jean-Claude Mittelmann, qui était l'ami de mes parents et qui est de la génération de mes parents. Et c'était une référence dans le milieu apicole, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est par son intermédiaire que j'ai commencé à m'intéresser aux abeilles.
Et vous, Jacinthe, comment est-ce que vous avez intégré le projet tout en poursuivant votre carrière de professeur des écoles ?
Moi, j'ai toujours... Après, c'est l'amour de la nature, ouais. du travail dehors. On avait tous les deux des chevaux, donc voilà, on aimait cet environnement et ça m'a toujours intéressée. Donc au début, j'ai épaulé Paul et puis petit à petit, je me suis de plus en plus investie. Voilà.
Et vous, Paul, je crois que vous avez commencé par l'élevage de rennes et une vingtaine de ruches en 2007, si je ne me trompe pas.
Oui, nos premières ruches en 2007-2008. Et après, petit à petit, on a développé nous-mêmes le cheptel, on s'est fait notre propre élevage. Donc on a fait des rennes pour nous-mêmes. Et pour développer le cheptel par nos propres moyens, quoi.
Alors justement, l'élevage des rennes, c'est un processus indispensable afin d'avoir des colonies résistantes et en bonne santé. Comment ça se passe ? Comment se fait la sélection ?
Dans l'élevage, il y a deux parties en fait. Il y a la partie sélection.
Oui.
Donc ça, nous, on ne fait pas parce qu'on est, on peut pas tout faire. On n'est pas apte à, on peut pas tout faire.
Oui.
Donc, on a acheté en fait des rennes qui étaient sélectionnées, qui étaient inséminées à des sélectionneurs. Donc, c'est des rennes qui viennent de toute la France, voire de l'étranger. Mais on en achète quelques-unes par an.
À peu près.
Voilà, enfin, entre 5 et 10, on va dire.
Oui. Ouais.
Et à partir de ça, il y a le travail de multiplication. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on faisait. Donc, ça, c'est notre travail. Donc, on multipliait les souches qu'on achetait sur l'exploitation. Et ça, on a fait ça jusqu'en 2020.
Ouais.
Et après, en 2020, pour diverses raisons, on a décidé d'externaliser l'élevage de rennes. Donc, on achète maintenant des rennes à des éleveurs, à des multiplicateurs français, qui nous fournissent des rennes à partir du 10 mai à peu près, jusqu'au 20 juillet. Et après, on a encore des rennes qui arrivent en fin de saison pour renouveler des lots de ruches en fin de saison pour avoir des rennes jeunes et des ruches en bonne santé et vigoureuses.
Quels sont les différents prédateurs des abeilles et comment lutter ?
On pense frelons asiatiques, les produits. Le premier prédateur, c'est un acarien qui s'appelle le varroa destructor.
Oui.
Qui, d'une part, mange l'infolymphe des abeilles. Et en plus de ça, l'autre plus gros problème, c'est les vecteurs de virus. Donc, oui. L'abeille est sujette à des dizaines de virus. Et donc, c'est le varroa qui est vecteur de ce virus. Donc, on parle beaucoup de varroa en tant que tel, mais il y a aussi l'aspect vecteur de virus qui pose beaucoup de problèmes sur la santé des colonies.
Ouais. Et comment on fait pour lutter ? C'est compliqué. Hein.
Pour le traiter, on utilise depuis 4-5 ans des acides organiques. Donc, c'est des molécules qui sont autorisées en agriculture biologique et qui marchent très bien.
Ouais.
Et voilà.
Et le frelon asiatique ?
Et après, oui, après, on a ce problème de frelons asiatiques depuis une année maintenant qui, selon les années, selon les conditions météo, est plus ou moins impactante. Donc les années humides, voilà, le frelon se développe bien. Les années très sèches et très chaudes, il a un peu plus de mal à se développer, mais bon, il est quand même très
Oui,
présent.
il est très présent.
Et on a une grosse pression, frelon asiatique, à partir du 15 ou 20 août à peu près. Et ça jusqu'à Toussaint, voire jusqu'à Noël. Quand arrivent les premières gelées et selon quand arrivent les premiers froids.
Alors,
Et par rapport à ça, on est un peu démunis parce qu'il n'y a pas vraiment de
non, il n'y
méthode
a pas vraiment de...
pour lutter contre ce
Efficacement.
fléau, quoi.
Ouais. Alors, parlons de toute autre chose. Vous pratiquez la transhumance avec vos abeilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous organisez vos déplacements et pourquoi sont-ils essentiels?
Alors sur l'exploitation, on dispose d'à peu près une soixantaine d'emplacements sur le département et départements limitrophes. En fait, on est comme un berger avec les brebis.
Et oui.
On déplace les abeilles au gré des fleurs.
Sur
Donc on pose.
différents territoires d'ailleurs, hein.
Oui. Et donc on pose les ruches sur les colonies sur des zones où il y a beaucoup de fleurs qu'on sur, enfin, sur notamment ça peut être sur des romarins dans les Corbières, ça peut être de l'acacia en vallée d'Ariège, du tournesol dans l'Ouragais,
Oui.
ou du châtaignier de la Montagne Noire. Et donc c'est des zones où il y a beaucoup de fleurs et au moment où on pose les abeilles, les colonies, les fleurs sont au début de floraison. Et dès que la fleur est finie, on transhume sur une autre fleur. Et ça, on enchaîne les transhumances du romarin, donc c'est à partir de fin février, on va dire. Jusqu'au tournesol, on les pose au 10 juillet à peu près, mais on retire les ruches à peu près vers fin août.
D'accord. Et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de ces transhumances, notamment avec les trajets nocturnes et la météo?
Oui, bah, du coup, c'est un travail qui se fait toujours la nuit, donc on attend que le jour se couche. On transhume les ruches ouvertes, on ne ferme pas, pour pas les stresser, pour pas les étouffer. Donc on est obligé de charger au moment où toutes les abeilles sont rentrées dans la colonie. Donc on charge sur les camions, on est équipé de camions poids lourds. Et on transhume, on charge le soir, on fait la transhumance, donc entre 1 heure et 2 heures, voire plus. Et après on dépose les ruches en pleine nuit, donc c'est vers minuit, entre minuit et 2 heures du matin, on va dire. Et après on rentre à la maison, donc on finit souvent entre 2 et 3 heures du matin.
Ah oui.
Donc ça fait des grosses journées,
Ah oui.
ça fait des journées à rallonge parce que la journée on débraye pas forcément. Ça fait du stress aussi parce que transhumer des ruches c'est du vivant, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur au niveau du chargement. Après oui, il y a l'aspect météo et il y a des risques d'orage des fois où on peut s'embrouber avec des camions ou voilà ou enfin voilà où ça peut mal se passer. Voilà, donc ça reste des moments assez difficiles, ouais.
Bien écoutez, Jacinthe Paul, je vous propose, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Languedoc.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. c'était pas des anges non plus. L'évangile, il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
De retour sur Radio Lingodoc, nous parlons d'apiculture en compagnie de Jacinthe et de Paul. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez nous détailler les étapes de la fabrication de vos miels, de la récolte à la mise en pot ?
Oui, alors, quand on récolte, donc on se rend sur les ruchers avec un camion, une remorque. Ce qu'on enlève, ce sont les hausses, c'est-à-dire la partie qui est juste au-dessus de la ruche, le grenier de la ruche en fait. Donc ça, c'est ce qu'on va enlever et les réserves de miel qui se trouvent dans la ruche, ça, on les laisse toujours aux abeilles pour qu'elles aient de quoi se nourrir. Donc les hausses, on les charge sur le camion. Une fois qu'elles sont chargées, ça se fait la journée, cette opération. Une fois qu'elles sont chargées, les hausses, on les ramène à la miellerie. Donc on fait le trajet, par exemple, si c'est du miel dans les corbières, on le ramène à la miellerie, on le décharge et on le met dans une pièce de déshumidification.
Ok.
Voilà, donc dans cette pièce, il y a des déshumidificateurs et des ventilateurs qui tournent pour permettre au miel d'acquérir le bon taux d'humidité, en fait. Il y a un taux légal à respecter pour extraire le miel. Donc, on a un petit appareil qui s'appelle un réfractomètre avec lequel on mesure l'humidité du miel. Et une fois qu'elle est satisfaisante pour nous, on amène les palettes de hausse dans la pièce qu'on appelle la salle d'extraction. Mm-hmm. Donc, c'est une pièce où il y a une machine, on appelle chaîne d'extraction. Alors, dans un premier temps, on a un appareil qui permet à la cire d'être enlevée. Ça s'appelle la désoperculation. Mm-hmm. C'est la cire qui bouche les alvéoles. Et si on n'enlève pas cette cire, le miel ne pourrait pas s'écouler. Eh
oui.
Donc, on passe les cadres dans cette machine où il y a des lames qui grattent la cire d'abeille. Et ensuite, les cadres de miel, ils sont envoyés dans la centrifugeuse.
Oui.
Voilà, donc là, c'est un appareil qui tourne à grande vitesse, on lance un cycle et ça permet au miel tout simplement de s'écouler sur les parois de la centrifugeuse et ensuite d'être pompé et ensuite d'être envoyé dans des tuyaux inox dans une cuve qu'on appelle un maturateur. Voilà, ça c'est pour ce qui est de l'extraction du miel.
C'est un sacré processus, hein.
Voilà, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en saison, quand nous, on a beaucoup de travail au rucher, récolte, on peut pas être à la fois en train de récolter et en train d'extraire. Donc, on a souvent un jeune saisonnier qui vient et qui est dans la salle d'extraction pour extraire ce miel. Une fois que le miel il est extrait, on le met dans des fûts.
Oui.
Soit on est en pleine récolte, on n'a pas le temps, donc il est stocké dans des fûts pour être mis en pot plus tard. Soit si on a besoin de faire une mise en pot, on le met dans une cuve inox avec un fond conique qu'on surélève, qu'on met en hauteur, et de là on met le miel en pot. Donc ça c'est nous qui le faisons, c'est fait à la miellerie. Voilà, c'est mis en pot dans des pots de verre de 250 ou 500 grammes. Et ensuite, de la table de mise en pot, bah le miel il va sur une table d'étiquetage. Donc, on a une étiqueteuse, voilà, où on pose nos étiquettes en fonction des variétés. Et ensuite, il est mis en carton, voilà, pour être livré ou vendu directement sur place.
Et justement, vous proposez 9 types de miel, également d'autres produits comme le nougat, la pâte à tartiner. Comment est-ce que vous décidez des nouvelles gammes à créer?
Enfin, on décide pas vraiment. Les gammes de miel, c'est en fonction de ce que la nature nous offre, on va dire,
Oui.
des ressources qu'on a. Sachant que ben, d'une année sur l'autre, voilà, les quantités sont pas les mêmes. On est dépendant de la météo. Et après, ben, l'idée, c'était aussi de diversifier, de valoriser le miel en offrant d'autres produits, comme par exemple les bonbons au miel. Donc là, c'est un produit qui est fait à façon avec notre miel, voilà, tout au long de l'année. Et puis après, au niveau des associations, par exemple, le nougat, on a choisi de mettre du miel de châtaignier parce que c'est un miel très goûtu, corsé. Et du coup, notre nougat, il est vraiment typé avec un fort goût en miel. Donc voilà, ça offre un produit intéressant qui est bien apprécié.
Et je crois que vous avez même un miel qui a été médaillé, hein, c'est celui du châtaignier.
Oui, il a été médaillé au Salon de l'agriculture. On avait obtenu une médaille d'argent. Voilà, une fois on a présenté notre miel et il a obtenu une médaille d'argent. Donc, on était assez contents.
J'imagine.
Oui.
Et vous avez
Bien.
rejoint la marque Pays Qatar. Que vous apporte l'intégration à cette marque? Comment est-ce que cela peut influencer votre visibilité, vos contacts avec d'autres producteurs?
Oui, tout à fait. La marque Pays Qatar, ben, déjà c'est un signe de qualité.
Oui.
Donc pour le consommateur, voilà, c'est un bon indicateur. Ça nous permet d'avoir une visibilité dans les magasins de producteurs, magasins terroirs. Donc c'est intéressant et puis ça permet de faire un travail collectif et d'être en contact avec ben, d'autres agriculteurs qui font d'autres produits. Et voilà, c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres personnes, de travailler collectivement.
Et quel est votre, si on parle un petit peu de moment plaisir, quel est votre moment préféré dans le processus de production? Est-ce qu'il y a un lieu ou un paysage qui vous inspire particulièrement?
Oh, il y en a plusieurs, je pense. Paul, tu me.
Moi, il y a deux endroits qui me viennent en tête, c'est le plateau de Sceaux,
Ouais, très beau.
où c'est quand même un environnement préservé au niveau agricole, un endroit frais et agréable à travailler. Et puis il y a les montagnes avec les Pyrénées derrière, voilà, c'est quand même un beau paysage. Et après, il y a le plateau de Valensole où on fait de la lavande en Provence. Et là, il y a des odeurs qu'on n'a pas ici. Et puis une ambiance, des accents, voilà,
Ça,
des histoires de provençal, et ça nous fait voyager en même temps que le travail. Donc c'est toujours un bon moment d'aller là-haut. Ouais.
et si vous deviez résumer votre philosophie ou votre approche de l'apiculture et de la vie professionnelle, qu'est-ce que vous diriez?
On sait qu'on ne sait rien, je crois.
On apprend tous les jours et la
Ouais.
seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Ouais.
Ouais.
C'est une belle philosophie. Dites-moi, avant de se quitter, question pratique, on retrouve vos produits, vos miels, les bonbons, le nougat, où est-ce qu'on retrouve tout ça?
Alors, vous pouvez le retrouver à la miellerie chez nous. On est ouvert au public, mais sur rendez-vous, parce que bien souvent on est aux ruches,
Eh oui.
mais on reçoit les gens sur rendez-vous sans problème. On a également un site internet où on expédie du miel pour les gens qui habiteraient plus loin. Et puis après, vous pouvez les retrouver dans les commerces locaux, donc à Carcassonne, à Narbonne, à Toulouse, voilà. Dans plein de commerces du département.
C'est super. Bon, Paul, Jacinthe, je vous remercie.
Merci Charlie.
Merci à vous.
Et on vous souhaite une lune de miel qui va durer encore longtemps. Bonne aventure à vous. Et tiens, peut-être qu'on passera visiter les ruchers un de ces quatre.
Avec plaisir.
Ça sera avec plaisir. Merci à vous et à Dicios.
Merci Charlie.
Merci.
Merci à vous.